La séance s'est ouverte au théâtre du Vieux Colombier avec les comédiens français Michel Favori, Pierre Ancis, Nicolas Lormeau, Hervé Pierre, Jérôme Pouli et aussi Alexis Chevalier, Grégoire Roqueplot et Guillaume Naille. Juin 1789, les États généraux se constituent en Assemblée nationale. À la fin du mois de mai 1789, la situation est très tendue dans toutes les provinces. La population, chauffée depuis des mois par la préparation des élections et la rédaction des cahiers de doléances, attend un soulagement. C'est une expression de Mirabeau. Or, les États généraux, depuis qu'ils siègent le 5 mai, n'ont pas résolu la contradiction explosive qui a présidé à leur convocation. Le roi a accepté de donner aux élus du tiers le doublement de leur nombre, la majorité virtuelle, mais il a maintenu la vieille coutume du vote séparé des trois ordres, ce qui maintient aussi de fait à la noblesse et au clergé leurs privilèges. Depuis le 5 mai, les députés du tiers pressent en vain la noblesse et le clergé de se réunir à eux, en vain. Depuis au moins 2 ans, certains esprits, pionniers, Lafayette par exemple, rêvent d'une assemblée nationale. Les membres les plus avancés du tiers veulent maintenant la réaliser avec leurs alliés de l'aristocratie libérale et ceux du bas clergé. Ils deviendraient tous des représentants de la nation qui ne seraient plus déterminés par leur appartenance à un ordre ni même à une province, individus libres. Ils pourraient parler au nom de tous. En attendant, ils sont réduits à l'attente par la question de la vérification des pouvoirs qu'en prélude des temps nouveaux, ils veulent faire en commun, tous ordres confondus, ce que n'accepte pas le clergé et encore moins la noblesse. La route qui relie Versailles à Paris est alors parcourue de rumeurs et de courriers en tous sens. Une assemblée parallèle se tient au Palais Royal dans la capitale qui presse le tiers-état d'agir. Mais comment affronter le roi ? Emmuré dans le chagrin, il vient de perdre un fils, et la tradition, il ne conçoit qu'une société d'ordre. C'est à peine si ses ministres esquissent un demi-pas le 28 mai, proposant comme solution de conciliation que chacun des trois ordres procède à la vérification de ses membres sous leur arbitrage, à eux, les ministres. Le clergé accepte d'enthousiasme, mais la noblesse demande à réfléchir. À la Chambre des communes, autant dire, celle du tiers, ce sont 2 transfuges qui expriment l'impatience qui gagne. L'abbé Sieyès, auteur du fameux « Qu'est-ce que le tiers-état ?» Il répondait « Mais c'est tout !» Et le vicomte de Mirabeau, tous deux, ont choisi d'être élus par le tiers. Mirabeau.
Messieurs, vous avez dû vous apercevoir que la marche constante des ministres du roi, dont l'unique rôle devrait être le silence et la neutralité, a été de jeter des semences de division tout en affectant de prêcher l'union. Dans cette conduite oblique, l'intention des ministres n'est point équivoque. Forcés de convoquer les États généraux, ils veulent du moins anéantir leur influence en les divisant et les réduire à prendre le ministère pour arbitre de leurs différends. Messieurs, est-il vrai que l'Assemblée nationale ait besoin de juges ou d'arbitres pour la vérification de ses pouvoirs ? Peut-elle reconnaître d'autres juges, d'autres arbitres qu'elle-même ? Et nos électeurs, en nous chargeant de leurs droits et de leurs pouvoirs, nous ont-ils laissé la liberté de les remettre en d'autres mains ? Ce serait manquer à nous-mêmes, messieurs, que d'adopter la proposition des commissaires du roi. Elle attente au droit de la nation. Elle repose sur des principes condamnables. Elle aurait des suites les plus redoutables. Elle paralyserait de mort l'Assemblée nationale avant même qu'elle eût manifesté son existence. Elle ferait avorter la dernière espérance de la nation.
L'abbé Sieyès.
Messieurs, depuis l'ouverture des États généraux, les communes ont tenu une conduite franche et impassible. Elles ont eu tous les procédés que leur permettait leur caractère à l'égard du clergé et de la noblesse, tandis que ces deux ordres privilégiés ne les ont payés que d'hypocrisie et de subterfuge. L'Assemblée ne peut rester plus longtemps dans l'inertie sans trahir ses devoirs et les intérêts de ses électeurs. L'Assemblée n'a donc plus autre chose à faire que de sommer les membres des deux autres chambres privilégiées de se rendre dans la salle des États pour assister, concourir et se soumettre à la vérification commune des pouvoirs. Ce sera la dernière sommation.
L'abbé Sieyès est un homme neuf. Il vient d'arriver à la Chambre des communes et c'est un homme auréolé par le succès de son pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-état ?» où il avait tendance à exclure du contrat social le clergé et la noblesse dont l'inutilité devenait, selon lui, tout à fait évidente. Il prononce le mot de « sommation » et avec ce mot « sommation », il va faire avancer le jeu d'une façon décisive. Les communes envoient donc aux deux autres ordres une députation, les sommant de se réunir à elles. On leur répond qu'on en débattra. À la majorité, la noblesse accepte de se dépasser, ou du moins elle pense qu'elle se dépasse en restant au plan de conciliation du roi. Et elle invite les communes à faire de même. Mais le même jour, petit coup de théâtre. Dans le clergé, on s'en souvient, les évêques ne sont qu'une quarantaine. Un petit groupe de membres du bas clergé rompt avec son ordre et rejoint les communes en annonçant d'autres départs. L'abbé Marolles, du bailliage de Saint-Quentin.
Messieurs, depuis l'ouverture des états généraux, mon cœur est au milieu de vous. Dans une chambre qui s'est séparée, j'ai combattu pour vos intérêts, nécessairement unis aux nôtres et à ceux de la nation entière. Je viens ici, messieurs, professer hautement cette vérité et reconnaître la nécessité indispensable de la vérification commune des pouvoirs d'une Assemblée nationale. Je soumets les miens à votre examen. Dans ma conduite, vous trouverez les principes de la tendre affection d'un frère.
Bravo ! Applaudissements. Embrassades. Les jours suivants, les ralliements de députés du clergé se succéderont. Nous sommes le 12 juin, plus d'un mois après l'ouverture des états généraux. Les communes se sentent suffisamment fortes dorénavant pour procéder enfin à la vérification des pouvoirs. Vient alors la question de passer à l'étape d'après, se constituer en Assemblée nationale. L'abbé Sieyès.
Messieurs, cette Assemblée est déjà composée des représentants envoyés directement par les 96 centièmes au moins de la nation. Une telle masse de députations ne saurait être inactive par le fait de l'absence des députés de quelques bailliages ou de quelques classes de citoyens, car les absents qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présents d'exercer la plénitude de leurs droits. Il appartient à cette assemblée et il n'appartient qu'à elle de présenter la volonté générale de la nation. L'Assemblée juge donc que l'œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés présents et qu'ils doivent la suivre sans interruption et sans obstacle.
Malouet.
Et moi je dis qu'il en est hors de question. Nous constituer Assemblée nationale, sans égard au clergé et à la noblesse, ce serait créer une scission désastreuse qui provoquerait la dissolution des états généraux.
L'Assemblée ne perd pas l'espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd'hui absents. Elle ne cessera de les appeler, tant individuellement que collectivement. À quelque moment que les députés absents se présenteront dans le cours de la session qui va s'ouvrir, elle déclare d'avance qu'elle les recevra avec joie.
Mais hier comme aujourd'hui, nous sommes les députés des communes. Un simple acte de notre volonté ne peut pas nous constituer Assemblée nationale.
Messieurs, nous sommes prêts à sortir du cercle où votre sagesse s'est longtemps circonscrite.
Mirabeau.
Qu'on oppose aux volontés du roi et aux vœux de son peuple les gothiques oppressions des siècles barbares, qu'à la fin du XVIIIe siècle, une foule de citoyens réclame le droit d'arrêter tout quand tout doit marcher, que quelques personnes veuillent ramener le peuple de France à ces formes qui classaient la nation en deux espèces d'hommes, les oppresseurs et les opprimés, qu'ils s'efforcent de perpétuer une prétendue constitution où un seul mot prononcé par 151 individus pourrait arrêter le roi et 25 millions d'hommes, qu'enfin ils invoquent hautement le despotisme ministériel, c'est le comble sans doute de la déraison orgueilleuse. Espérons donc, messieurs, et marchons d'un pas ferme vers un but qui ne saurait nous échapper. Toutes les voies de douceur sont épuisées, toutes les conférences sont finies. Il ne nous reste que des partis décisifs et peut-être extrêmes. Extrêmes ? Oh non, messieurs, non, non. La justice et la vérité sont toujours dans un sage milieu. Il faut nous constituer. Nous en sommes tous d'accord. Mais comment ? Sous quelle forme ? Sous quelle dénomination ? En états généraux ? Le mot serait impropre. Il suppose trois ordres, trois états, et ces trois ordres ne sont pas ici. Vos mandats vous autorisent-ils à vous déclarer l'assemblée des seuls représentants connus et vérifiés ? Il ne vous suffira pas de vous donner ce titre pour l'avoir en effet, ni pour qu'on vous en croie légalement revêtu. Et si vous échouez, si le roi vous refuse sa sanction, si les ordres réclament son autorité, qu'arrivera-t-il ? Dissolution ou prorogation ? La suite évidente en est le déchaînement de toutes les vengeances, la coalition de toutes les aristocraties et la hideuse anarchie qui toujours ramène au despotisme. Vous aurez des pillages, vous aurez des boucheries. D'ailleurs, ce titre de représentant connu et vérifié est-il bien intelligible ? Frappera-t-il vos électeurs qui ne connaissent que les états généraux ? N'allez pas croire que le peuple s'intéresse aux discussions métaphysiques qui nous ont agités jusqu'ici. Le peuple est trop loin encore de connaître le système de ses droits et la sainte théorie de la liberté. Le peuple veut des soulagements parce qu'il n'a plus de force pour souffrir. Le peuple demande seulement de ne payer que ce qu'il peut et de porter paisiblement sa misère. Ne prenez pas un titre qui effraie. Cherchez-en un plus doux qu'on ne puisse vous contester. Au titre de député, préférez la formule « représentant du peuple français ». Cette dénomination si peu alarmante, si peu prétentieuse, cette dénomination contient tout, répond à tout. Et si elle est aujourd'hui peu fastueuse, parce que les classes privilégiées ont avili le corps de la nation, qu'elle sera grande, imposante, majestueuse. Elle sera tout lorsque le peuple, relevé par nos efforts, aura pris le rang que l'éternelle nature des choses lui destine.
Mirabeau est modérément applaudi. Il s'est mis dans une situation inconfortable en prenant une position sur le fil. Il défend déjà l'idée qui sera bientôt la sienne. Il veut pour le roi un droit de veto. Donc quand le vote va intervenir, à 9h du soir, il s'éclipsera. La constitution de l'Assemblée est mise aux voix. Ce 17 juin, par 491 voix contre 90. Les communes se constituent en Assemblée nationale, unique interprète de la volonté générale de la nation, chargée de la restauration nationale, et le plus vieux député de l'Assemblée, Jean-Sylvain Bailly, devient le président. Messieurs, en tant que président, je vais faire prêter à l'Assemblée le serment. Et ce serment sera regardé comme prêté par quiconque ne se présentera pas pour signer une déclaration contraire. Je vous invite à vous lever et main levée, à jurer et promettre de remplir avec zèle et fidélité les fonctions dont nous sommes chargés. Je vous demande de vous lever et de répéter après moi, nous le jurons, et promettons. Et pendant ce temps, me direz-vous, à la chambre du clergé, l'abbé de Coulmiers.
Messeigneurs et messieurs, il faut se décider. Le danger augmente par notre incertitude. Alors, n'est-il pas de notre devoir de tout sacrifier ? Privilèges pécuniaires, droits honorifiques, prérogatives, oui ! Nous devons tout abandonner pour voler parmi nos frères. Nous avons à traiter avec des citoyens vertueux. Ils sont français, et c'est tout dire. Ils aiment la religion. Ils en respecteront les ministres. Recherchons nos frères. Dans des circonstances moins pressantes, je voterai pour que nos pouvoirs fussent vérifiés dans cette chambre, suivant le plan de conciliation proposé par Sa Majesté. Mais je pense et crois, dans ce moment, que l'amour de la patrie, le service même du roi, le bien et le salut de la religion de l'État sont des considérations bien puissantes pour tout citoyen et doivent l'être bien davantage auprès de nous, messeigneurs et messieurs, qui devons être des anges de paix. Je crois que nous devons aller faire vérifier nos pouvoirs dans la salle commune des États généraux.
La chambre du clergé hésite encore entre ceux qui souhaitent une vérification particulière, ceux qui, comme l'abbé de Coulmiers, veulent rejoindre les communes, et finalement, c'est le dégel, c'est le second parti qui remporte la majorité. Le clergé s'apprête donc à rejoindre les communes. C'est sans compter sur la réaction de Louis XVI. Le samedi 20 juin, les représentants de l'Assemblée nationale trouvent la salle des menus plaisirs, la salle des États où ils doivent se réunir, fermée et gardée par des soldats. Une affiche leur apprend que la salle est en travaux afin de préparer une séance royale. Le roi ne les a prévenus ni de la séance royale, ni de la suspension des assemblées. La manœuvre est limpide. Le président de l'Assemblée décide que la séance aura tout de même lieu et il conduit tous les députés, non loin, dans la salle vide du jeu de paume. Triste lieu, laid et démeublé, dit Michelet, qui sera la crèche de la nouvelle religion. Là, l'Assemblée délibère et se met d'accord sur l'arrêté suivant que propose le président. L'Assemblée nationale, considérant que, appelée à fixer la constitution du royaume, à opérer la régénération de l'ordre public et à maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir et qu'enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. Arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affirmée sur des fondements solides et que le dit serment étant prêté, tous les membres et chacun d'eux en particulier confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable. Nous le jurons et promettons.
Nous le jurons et promettons.
Le président, les deux secrétaires, tous les députés de l'Assemblée prêtent serment et viennent, l'un après l'autre, signer la déclaration. Mais la révolution a à peine commencé qu'il s'avère déjà difficile d'être un opposant.
J'annonce à l'Assemblée que M. Martin Dauch, bailliage de Castelnaudary, a signé opposant.
Je demande que l'on entende les raisons de l'opposant.
Je déclare que je ne crois pas pouvoir jurer d'exécuter des délibérations qui ne sont pas sanctionnées par le roi.
L'Assemblée a déjà publié les mêmes principes, monsieur, dans ses adresses et dans ses délibérations. Il est dans le cœur et dans l'esprit de tous ses membres de reconnaître la nécessité de la sanction du roi.
Mais je persiste dans mon avis.
Très bien. Nous laisserons sur le registre la signature de monsieur Martin Dauch pour prouver la liberté des opinions. Le 23 juin a lieu la séance royale annoncée. On fait attendre une heure sous la pluie les députés des communes avant de les laisser entrer dans la salle des États où le clergé et la noblesse sont déjà en place. Sa Majesté le Roi.
Messieurs, je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples lorsque j'avais pris la résolution de vous rassembler. Il semblait que vous n'aviez qu'à finir mon ouvrage. Et la nation attendait avec impatience le moment où, par le concours des vues bienfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses représentants, elle allait jouir des prospérités que cette union devait leur procurer. Les États généraux sont ouverts depuis près de 2 mois, et ils n'ont point pu encore s'entendre sur les préliminaires de leurs opérations. Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même, de faire cesser ces funestes divisions. C'est dans cette résolution, messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi. C'est comme le père commun de tous mes sujets. C'est comme le défenseur des lois de mon royaume que je viens en retracer le véritable esprit et réprimer les atteintes qui ont pu y être portés. Je veux que l'ancienne distinction des 3 ordres de l'État soit conservée, que les députés élus par chacun des 3 ordres, formant 3 chambres, délibérant par ordre, puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentants de la nation. En conséquence, je déclare nul les délibérations prises par les députés de l'ordre du tiers-État le 17 de ce mois, ainsi que celles qui auraient pu s'en suivre, comme illégales et anticonstitutionnelles. Messieurs, je puis dire, sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune nation. Mais quel autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentiments que la nation française ? Je ne craindrai pas de l'exprimer. Ceux qui, par des prétentions exagérées ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d'être regardés comme français. Si par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, seul je ferai le bien de mes peuples. Seul, je me considérerai comme leur véritable représentant. Et connaissant l'accord parfait qui existe entre le vœu le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie. Et je marcherai vers le but auquel je veux atteindre avec tout le courage et la fermeté qui doit m'inspirer. Je vous ordonne, messieurs, de vous séparer tout de suite et de vous rendre demain matin, chacun dans les chambres affectées à votre ordre, pour y reprendre vos séances.
Louis XVI est entendu dans le silence. Jamais le roi n'aura plus l'occasion de poser un acte public qui soit accompli de sa propre autorité. Le clergé et la noblesse lui obéissent encore, sortent, le roi lui-même sort. mais les députés des communes restent vissés à leur banquette. Mirabeau.
Quelle est cette insultante dictature ? L'appareil des armes, la violation du temple national pour vous commander d'être heureux. Qui vous fait ce commandement ? Votre mandataire. Qui vous donne des lois impérieuses ? Votre mandataire. Lui, qui doit pourtant les recevoir de vous, de nous, messieurs.
Dans le tumulte entre le maître des cérémonies de Louis XVI, le marquis de Drebrézé.
Messieurs, vous avez entendu les intentions du roi.
Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Et vous qui ne sauriez être son organe auprès des états généraux, vous qui n'avez ici ni place ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes.
Tel est le vœu de l'Assemblée !
Tel est le vœu de l'Assemblée !
Le marquis de Drebrézé se retire à reculons devant les nouveaux rois, comme il avait coutume de se retirer à reculons devant Louis XVI. L'abbé Sieyès.
Messieurs, nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier. Délibérons.
Le 27 juin, le roi finira par inviter son fidèle clergé et sa fidèle noblesse à rejoindre le tiers. Le 9 juillet 1789, l'Assemblée nationale se déclarera officiellement constituante, bien que diminuée peu à peu par l'émigration, continue, soit forte, soit perlée. Elle siégera plus de 2 ans. C'était la dernière séance de la saison Théâtre du Vieux Colombier à Paris. Le roi, c'était Hervé Pierre. Mirabeau, Jérôme Pouly, Sieyès, Pierre Ancis, Lalit Hollandal, c'était Nicolas Lormeau. La coordination des comédiens français était assurée par Michel Favori, la préparation des textes par Isor Pisani-Ferry. Remerciements à nos acteurs habituels, Alexis Chevalier et Grégoire Roqueplot, qui ont été rejoints ce soir par Guillaume Naille. À la réalisation, Stéphane Ronxin. À la technique, Laurent César, Loïc Duros et Gilles Manet. Et remerciements vifs à toute l'équipe du Théâtre du Vieux Colombier à Paris.